VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 3 juin 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Cameroun, le gouvernement qualifie d'accidentel l'incendie à la Société nationale de raffinage de Limbé en zone anglophone.
L'opposition camerounaise dénonce pour sa part les conditions d'arrestation de plus de 350 sympathisants.
Amnesty International demande aux candidats à la présidentielle du 22 juin en Mauritanie de s'engager pour les droits de l'homme.
Presque tous les demandeurs de visa américains devront désormais fournir de nouvelles informations selon le département d'État américain.
Les États-Unis sont prêts à tenir des pourparlers sans préalable avec l'Iran, a dit le secrétaire d'État Mike Pompeo.
Le président américain Donald Trump a quitté hier soir les États-Unis pour une visite de 4 jours en Europe.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, la cause de l'incendie d'une partie de la Société nationale de raffinage, la Sonara, située à Limbé, en zone anglophone, est accidentelle. C'est ce qu'a affirmé hier soir le gouvernement au cours d'une communication spéciale, 72 heures après l'incendie. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a affirmé que les revendications des séparatistes anglophones d'avoir mis le feu à la Sonara n'étaient pas fondées. Les causes de l'incendie sont accidentelles, selon les premiers éléments de l'enquête à notre disposition, a-t-il précisé. Seule l'enquête ouverte va déterminer dans les moindres détails ce qui s'est passé, a précisé le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Luc Maguire Mbarga Atangana, le ministre du Commerce, a rassuré les consommateurs sur la disponibilité du carburant et du gaz domestique au même prix, malgré l'incident de vendredi dernier. Côté dégâts matériels, la direction générale fait mention de 4 des 13 unités de production endommagées et de l'arrêt du processus de raffinage. Mais le travail va reprendre ce lundi, a annoncé le président du conseil d'administration de la Sonara. Créée en 1973, elle avait une capacité théorique de 2,1 millions de tonnes par an et mettait, entre autres produits sur le marché, l'essence super, le butane, le pétrole lampant ou encore le gazole. Yaoundé, Emmanuel Juluntap, VOA Afrique.
Cameroun toujours, l'opposition a dénoncé hier les conditions d'arrestation de plus de 350 de ses sympathisants pendant des manifestations samedi dans plusieurs villes du Cameroun. Elle critique notamment l'absence d'accès à une aide juridique. Le principal opposant camerounais, Maurice Kamto, écroué depuis fin janvier à Yaoundé, a vivement critiqué par l'intermédiaire de son porte-parole l'usage excessif et injustifié de la violence dans la répression de ces manifestations organisées pour réclamer sa libération. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition avec notre correspondant Emmanuel Juluntap.
Le conseil militaire à la tête du Soudan tente aujourd'hui de faire disperser par la force le sit-in à Khartoum où des milliers de manifestants réclament le transfert du pouvoir aux civils selon le mouvement de contestation. Le comité central des médecins soudanais proche du mouvement de contestation a fait état de 2 morts et de plusieurs blessés. Depuis le 6 avril, des milliers de manifestants campent devant le siège de l'armée à Khartoum. Après avoir demandé le soutien des militaires contre le président Omar al-Béchir, ils réclament désormais mais le départ du pouvoir des généraux qui avaient évincé le chef de l'État le 11 avril.
Amnesty International et une trentaine d'ONG actives en Mauritanie ont appelé aujourd'hui les 6 candidats à la présidentielle à signer un manifeste contenant 12 engagements en faveur des droits de l'homme, dont elles qualifient de déplorable la situation. Ces ONG leur demandent notamment de combattre l'esclavage et les violences faites aux femmes à 3 semaines du scrutin. 6 candidats, dont celui du parti au pouvoir, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, compagnon de toujours du président Mohamed Ould Abdelaziz, qui ne peut pas se représenter au terme de son second mandat, sont en lice pour le premier tour de la présidentielle prévue le 22 juin.
Les corps d'une femme et d'un enfant ont été repêchés dimanche au large de la Libye après le naufrage de leur embarcation. Jusqu'à 25 autres migrants ont été portés disparus, ont indiqué les gardes-côtes libyens. Selon eux, 73 migrants, dont certains sont blessés, ont été secourus. Le porte-parole de la marine libyenne avait auparavant indiqué que les migrants avaient été braqués par des inconnus ayant dérobé le moteur du canot en pleine mer. Ils se sont trouvés immobilisés au large tandis que leur embarcation commençait à prendre l'eau.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le département d'État américain exigera désormais de presque tous les demandeurs de visa des informations sur leurs médias sociaux, leurs courriels et leurs téléphones. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Les nouvelles règles exigent que les personnes demandant un visa pour immigrants ou non-immigrants fassent la liste de tous les noms d'utilisateurs, adresses, e-mail et numéros de téléphone de médias sociaux utilisés au cours des 5 dernières années. Les autorités affirment que cette nouvelle exigence frappera près de 15 millions d'étrangers. Seuls les demandeurs de visas diplomatiques et officiels pourraient être exemptés des nouvelles règles. Il sera également demandé aux demandeurs de visas si des membres de leur famille ont été impliqués dans des activités terroristes. Les nouvelles règles ont été proposées pour la première fois en mars 2018.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a dit hier que les États-Unis sont prêts à tenir des pourparlers sans préalable avec l'Iran pour relâcher les tensions entre les deux pays. Mais dans une interview à ABC News, son homologue iranien Mohammad Javad Zarif a qualifié de peu probable de nouveaux pourparlers avec Washington. Au cours d'une conférence de presse en Suisse, M. Pompeo avait précisé que l'effort américain visant à changer fondamentalement les activités néfastes de la République islamique et de sa force révolutionnaire va continuer. Les États-Unis sont certainement prêts à avoir une telle conversation avec les Iraniens quand ces derniers pourront prouver qu'ils veulent se comporter comme une nation normale. Fin de citation.
Israël a mené dimanche de nouvelles frappes en Syrie, frappes qui ont fait au moins 11 morts parmi les forces loyales au régime de Damas, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a indiqué avoir ordonné ces dernières frappes après des tirs de roquettes venus samedi soir de Syrie. Depuis le début, en 2011, de la guerre en Syrie, Israël a mené plusieurs frappes contre l'armée syrienne, mais aussi contre les forces de l'Iran et du Hezbollah libanais, alliés indéfectibles du régime de Bachar al-Assad et deux grands ennemis de l'État hébreu implantés militairement en Syrie.
Le chef du Pentagone a demandé hier que l'armée américaine ne soit pas politisée. Patrick Shanahan a confirmé que la Maison-Blanche avait demandé que soit dissimulé un navire de guerre au nom du sénateur défunt John McCain lors de la récente visite du président Donald Trump au Japon. Des détails avec Bagassi Koura.
L'état-major particulier du président américain a contacté directement la 7e flotte américaine basée au Japon et a donné pour directive que l'USS McCain ne soit pas à portée de vue, a déclaré le ministre de la Défense par intérim Patrick Shanahan, confirmant des informations publiées mercredi par le Wall Street Journal. La directive n'a pas été mise en œuvre, a précisé Shanahan dans l'avion le conduisant à Séoul, troisième étape d'une tournée d'une semaine en Asie. Il a indiqué se baser sur les résultats d'une enquête de son chef de cabinet qu'il avait chargé d'établir les faits dans cette affaire, tout en démentant les informations selon lesquelles le nom de John McCain, héros de la guerre du Vietnam que Trump détestait, a été masqué à dessein par une bâche sur le destroyer avant la visite du président américain le 28 mai. Shanahan a regretté l'incident.
Malgré les appels au dialogue, le président Donald Trump a poursuivi dimanche ses attaques contre le Mexique, l'accusant encore de laxisme face à l'immigration clandestine, tandis que la Maison-Blanche confirmait la réalité des menaces de taxes douanières. M. Trump a annoncé jeudi son intention d'imposer dès le 10 juin des droits de douane progressifs sur l'ensemble des biens importés du Mexique si Mexico n'arrête pas, je cite, l'invasion de notre pays. Son homologue mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a réagi en assurant qu'il souhaitait préserver l'amitié entre les deux pays.
Le président Trump a quitté hier soir les États-Unis pour une visite de 4 jours en Europe. Sa première étape, Londres, ce lundi, pour une visite d'État qui inclut une audience avec la reine Elisabeth II. Également au programme des cérémonies à l'occasion du 75e anniversaire du débarquement au Royaume-Uni et en Normandie, ainsi qu'une escale en Irlande. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
À Maurice, les autorités s'attendent à un rebond de la production sucrière cette année après 2 ans consécutifs de baisse. D'après la Chambre mauricienne de l'agriculture, le volume devrait passer à 325 000 tonnes cette saison contre 323 406 tonnes. Ces perspectives positives sont à mettre au compte des conditions météorologiques clémentes, les bonnes pluies et un ensoleillement idéal qui ont favorisé la croissance des tiges de canne entre octobre et avril dernier. Le secteur sucrier contribue actuellement à 2% du PIB de l'île. La culture occupe près de 30% de la superficie totale de Maurice et génère 16% des recettes d'exportation totale du pays. En Angola, les quotas de pêche seront réduits de 30% cette année pour atteindre 230 000 tonnes. Ce volume comprend 150 000 tonnes de sardines et 80 000 tonnes de chinchard. Cette restriction, qui va dans le sens d'une régulation de l'activité de pêche, participera à la préservation des ressources marines. La pêche contribue à hauteur de 5% du PIB angolais. Le secteur emploie 300 000 personnes. Pour terminer, entre 2019 et 2020, l'Ouganda devrait réaliser une production caféière de 4,25 millions de sacs, un volume en baisse de 12% par rapport à la campagne précédente. Cette chute attendue se base sur la probabilité d'une sécheresse dans les zones de production de la fève. Cela devrait contrecarrer les efforts entrepris par l'autorité de développement du café dans les programmes de replantation, l'introduction de variétés améliorées et de l'amélioration de l'efficacité de la fourniture des intrants agricoles.
L'espoir à présent avec Élisée Onkpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Liverpool et ses Africains remportent la Ligue des Champions 2019 en Europe.
Sadio Mané, Mohamed Salah et Joël Matip, ils étaient tous titulaires en finale face à Tottenham. Naby Keita, le milieu de terrain guinéen, était le blessé et le forfait, mais il a pu assister aux premières loges à la victoire 2-0 des siens face aux Spurs. C'est Mohamed Salah qui a ouvert le score sur penalty après une main de Sissoko sur un centre de Mané. Et puis, c'est Divock Origi, le Belge d'origine kényane, qui a ajouté un second but dans les derniers instants de la rencontre, permettant ainsi aux Reds de remporter leur 6e Ligue des Champions de leur histoire.
Une finale sans accroc sur le plan de l'arbitrage au lendemain du fiasco de la finale de la Ligue africaine des champions.
Oui, un comité exécutif d'urgence de la CAF doit se réunir ce mardi, vraisemblablement à Paris, en marge du congrès de la FIFA pour débattre des issues réglementaires réservées à cette rencontre entre l'Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca. La pilule a bien du mal à passer dans le camp du WAC. La Fédération royale marocaine a même indiqué au lendemain qu'elle a décidé de saisir la FIFA ainsi que le tribunal arbitral du sport.
Football chez les jeunes, mondial des moins de 20 ans, et l'Afrique aura 3 représentants en 8e de finale.
Et 2 vont déjà s'affronter. Le Sénégal, premier du groupe A, va en découdre aujourd'hui avec le Nigeria, 3e du groupe D, pour une place en quart. Le Mali est parvenu aussi à se qualifier, malgré une défaite 3-2 face à la France, sans incident sur le classement de son groupe. Les Maliens restent 2e et affronteront demain, mardi, l'Argentine.
On parle à présent de la CAN 2019 qui démarre dans 18 jours. Et le Bénin débute son stage de préparation demain au Maroc.
Dernière ligne droite pour les protégés de Michel Dussuyer. Après une semaine d'entraînement, les écuyers vont quitter Cotonou ce lundi pour 17 jours de préparation intense à Casablanca. Le 11 juin, le Bénin jouera son premier match amical contre la Guinée, puis le 18 contre la Mauritanie. La délégation quittera le Maroc le 20 juin pour le Caire. À la CAN, le Bénin évoluera dans le groupe F en compagnie du tenant du titre, le Cameroun, le Ghana et la Guinée-Bissau.
Cyclisme avec le Tour du Cameroun qui a connu sa 2e étape hier.
Oui, entre Yaoundé et Nanga Eboko, sur une distance de 152,2 km, remportée par le Camerounais Clovis Kamzong Abesolo, devant l'Ivoirien Issaka Cissé et le Bulgare Konstantinov Radoslav. au classement général. Radoslav est le nouveau maillot jaune. Et puis, du basketball avec vous Idrissa, le résultat du match numéro 2 de la finale NBA.
Golden State est revenu à la hauteur de Toronto en s'imposant sur le terrain des Raptors 109-104 après avoir compté jusqu'à 12 points de retard dimanche. Golden State et Toronto sont à égalité, une victoire partout avant les deux prochains matchs qui auront lieu mercredi et vendredi à Oakland.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, cela fait 6 mois que des dizaines de membres de la communauté Peul ont été massacrés dans la localité de Yergou par des Kogloewo, une milice villageoise armée. Aucune interpellation n'a eu lieu à ce jour et plusieurs milliers de personnes qui ont fui ces milices armées et qui se sont réfugiées dans plusieurs camps de la région vivent dans des conditions précaires. C'est ce qu'affirme au micro de Bagassi Koura Boubacari Diallo, secrétaire général d'une association d'éleveurs qui soutient ces déplacés.
Ces déplacés vivent dans l'angoisse. Parce qu'aujourd'hui, ces déplacés sont dans un dilemme. Ils ne peuvent pas retourner dans les sites où ils étaient. Et au niveau des sites également, ils ne sont pas tellement bien pris en charge. Parce que rien que la dernière pluie qui a eu lieu à Parsalvo, les tentes étaient parties. Donc les déplacés étaient presque dehors.
Pourtant, il y a eu suffisamment de moyens qui ont été mobilisés. Et l'action sociale est aussi sur place. Et vous dites qu'ils ne sont pas dans de bonnes conditions?
Jusqu'à présent, en tout cas, ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Parce que depuis 2 jours, ils m'appellent pour me demander ce qu'ils me disent qu'ils ont fait. Donc, ça dit que la ration alimentaire ne suit pas bien.
À votre avis, où sont partis tous ces dons?
Bon, je saurais le dire. Je pense que sinon, nous avons en tout cas des échos de la part des déplacés qu'ils ont des difficultés pour en tout cas bien manger.
Ça fait 6 mois maintenant. Est-ce que certains déplacés ont pu retourner chez eux?
Les déplacés sont pris en étau des terroristes et puis des FDF. Donc aujourd'hui, il y a un grand problème. Il y a beaucoup même qui ont fui même les sites pour venir se réfugier au niveau de Kaya. D'autres même sont venus au niveau de Ouagadougou.
Parce que donc, les sites ne sont pas sécurisés suffisamment?
Il n'y a pas assez de sécurité. Les gens se sentent en insécurité.
Vous représentez une organisation d'éleveurs. Au début, on avait parlé de troupeaux perdus. Est-ce qu'on a pu retrouver certains de ces animaux?
D'autres ont pu récupérer, mais d'autres jusqu'à présent sont dans l'attente de pouvoir récupérer leurs troupeaux parce qu'ils n'arrivent pas à retourner dans les villages. S'ils repartent dans les villages, il y a les Kogloewo qui les arrêtent pour les remettre au FDF. Donc jusqu'à présent, il y a beaucoup qui n'ont pas récupéré leurs animaux.
Vous voulez dire que les Kogloewo qui ont été mis en cause dans ces massacres ne sont toujours pas désarmés dans la région?
Jusqu'à présent, en tout cas, ils arrêtent. La preuve que il y a 4 jours de cela, les Kogloewo sont venus au marché de Bassalgo arrêter Diallo Ousseni, un vendeur de bœufs, et le remettre au FDF.
Et si vous aviez un appel à lancer, ce serait lequel?
Travailler à ce qu'il y ait de l'apaisement, qu'on puisse travailler à faire repartir ces déplacés dans leur village d'origine. Naturellement, tout en prenant le soin de désarmer cette milice, parce que tant que cette milice aura des armes, il ne sera pas facile de faire repartir les gens dans leur village respectif. Mais aujourd'hui, au vu de l'avancée de la saison hivernale, c'est de travailler en tout cas à trouver une solution.
Boubacari Diallo, joint à Kaya, dans le nord du Burkina.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Cameroun, interpellation samedi de plus de 300 manifestants dans plusieurs régions du pays. Il s'agit de militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun de l'opposant Maurice Kamto. À l'appel du MRC, les personnes interpellées ont pris part aux marches dites blanches et pacifiques pour demander la libération de M. Kamto. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Nous allons donc, le 1er et le 8, marcher. Nous allons marcher parce que nous avons toujours demandé.
C'était la dernière prise de parole publique de Mamadou Mouta. Le vice-président du MRC a été arrêté samedi à Yaoundé alors qu'il prenait part à la marche organisée par son parti. Vendredi, celui qui assurait encore l'intérim de l'opposant Maurice Kamto a donné une conférence de presse pour confirmer la tenue des marches blanches et pacifiques.
Nous allons marcher pour dire non à l'exclusion déguisée du MRC et de ses partis alliés du jeu politique, non à la sécession, non à la guerre dans les régions anglophones, oui à la libération de toutes les personnes arrêtées et détenues dans le cadre de la crise anglophone, oui au dialogue inclusif et l'adoption consensuelle de la forme de l'État, oui à l'audit sur la gestion calamiteuse des milliards de la CAN totale 2019, finalement retirée au Cameroun.
Libérez !
Samedi matin à Yaoundé, à Douala, à Koussamba, dans la région du littoral ou encore à Bafoussam dans la partie occidentale du pays, des militants du MRC ont bravé l'interdiction de manifester des autorités administratives. C'est ainsi que 300 manifestants ont été interpellés, selon le porte-parole de Maurice Kamto, Olivier Bibou-Wunsak.
Les avocats qui ont été mandatés pour aller assister toutes les personnes arrêtées ont été systématiquement refoulés de toutes les unités où ils se sont présentés et où il était attesté que ces personnes étaient détenues. On a privé ces personnes de l'assistance de leurs avocats.
La détention prolongée de Maurice Kamto, de ses alliés politiques et une centaine de ses sympathisants depuis fin janvier dernier continue à crisper le climat politique au Cameroun.
L'arrestation de Maurice Kamto est vécue par beaucoup comme une manœuvre du pouvoir, notamment pour priver le paysage politique d'un adversaire politique.
Jean-Léa Ngoula, analyste des risques politiques et géopolitiques.
Maurice Kamto est perçu et apprécié au niveau international comme un prisonnier politique et cela contribue davantage à ternir l'image du Cameroun.
Analyse que ne partage pas Jean-Baptiste Atemengue, homme politique et militant du RDPC, le parti de Paul Biya.
La situation ici est celle d'un groupuscule qui s'est érigé contre le choix des Camerounais sur un candidat à l'élection présidentielle. Et une minorité a décidé d'instaurer un climat de guerre civile. Cela est inadmissible. Donc ce sont eux les ennemis de la liberté.
Le gouvernement n'a pas encore fait le point des arrestations de samedi dernier. Les autorités ont soutenu en fin de semaine dernière par la voix du ministre des Relations extérieures que seule la justice camerounaise a compétence de prendre des décisions qui s'imposent sur le sort des personnes interpellées lors des manifestations interdites organisées par le MRC. Mais le parti de Kamto compte revenir à la charge le 8 juin avec de nouvelles marches blanches et pacifiques. Yaoundé, Emmanuel Jelunta, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Discret comme ces pensionnaires inconnus du grand public, unique dans son genre au Sénégal, le centre Verbotonal participe à l'éducation des enfants atteints de déficience auditive. Il leur permet de communiquer avec la société et leur donne toute leur autonomie. Les sourds muets parlent au centre Verbotonal de Dakar, nous dit de la capitale sénégalaise notre correspondant Sédina Abagué.
Matinée de cours au centre Verbotonal de Dakar, les élèves de la classe préparatoire se concentrent sur le cours de rééducation de cabine. Les appareils auditifs bien fixés aux oreilles, ces élèves sourds-muets participent. Moustapha, 8 ans, répond aux questions de son maître David Natarang.
Comment t'appelles-tu ?
Toi, ma, pa, papa.
Oui, papa.
Papa.
À la maison.
Assis à côté d'un amplificateur, micro à la main, David, le rééducateur de cabine de ce centre, explique.
Je prends les enfants qui ont des difficultés à prononcer, à verbaliser certains mots ou bien des phrases, et je vais en aide pour les amener à s'exprimer d'une manière assez audible. Un enfant, au départ, qui ne savait pas articuler un problème et qui parvient à dire des phrases maintenant, c'est génial.
Génial, c'est ce que disent également les parents d'élèves qui, grâce au centre, parviennent à parler facilement avec leurs enfants sourds. Betty Gay montre toute sa satisfaction quant au progrès de son fils Fallou.
Avant, mon fils était complètement sourd et muet. Mais depuis qu'il a intégré ce centre, Fallou parle normalement. Il dit clairement « j'ai faim » ou « je veux telle ou telle chose ». Il parle presque comme les autres.
Aïssatou Camara, abonde dans le même sens, sa fille continue aujourd'hui ses études à l'école Saint-Julien-Aymar. Elle fait la classe de CE1 et s'en sort plutôt bien.
Ma fille étudiait ici, mais elle a été transférée dans une autre école. Elle parle comme tous les autres élèves. Même sa maîtresse me dit qu'elle se fait facilement comprendre. Tout cela, c'est grâce à ce centre. Elle a de bonnes notes d'ailleurs. Elle est classée 9e lors de la dernière composition.
Situé au quartier Gueltapé de Dakar, le centre verbotonal a ouvert ses portes en 1980. La directrice Fatou Matosumarelo revient sur la spécificité de l'établissement.
C'est un centre qui accueille des enfants déficients auditifs, communément appelés sourds-muets. Comme son nom l'indique, c'est un centre spécialisé. Donc, c'est des enfants déficients auditifs qui sont admis dans ce centre-là. Pas tous, évidemment. C'est un établissement public. Donc, nous prenons en charge les enfants dans la mesure de nos possibilités. Les enfants sont testés. Et à l'issue de ce test, tous ceux qui présentent des potentialités pour la méthode sont recrutés. Bon, c'est une méthode oraliste appelée méthode verbotona. Ce que nous essayons de faire, c'est de reconstituer un peu le processus d'acquisition du langage chez l'enfant. Donc il y a une phase de démutisation que nous faisons au préscolaire pour permettre à l'enfant de retrouver du langage et de poursuivre un cursus scolaire.
Ils sont aujourd'hui une cinquantaine d'élèves qui au départ ne pouvaient ni entendre ni parler, mais actuellement ils parviennent tant bien que mal à communiquer avec les autres. Ils partagent tous le même objectif, participer en toute égalité au développement de leur pays. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Alors que l'économie du Zimbabwe est en difficulté et que le pays manque de carburant, un nombre croissant d'entreprises refusent d'accepter la monnaie locale. Elles ne prennent que des dollars américains ou leur équivalent sur le marché noir. À Harare, certains ministères et entreprises ont même commencé à facturer en monnaie américaine. Reportage de Columbus Mavunga, repris ici par Bagasikura.
Certaines entreprises du Zimbabwe ne supportent plus la dévaluation constante de la monnaie locale et ont commencé à faire des affaires en dollars américains. Une des raisons est que la monnaie locale, connue sous le nom de billet obligataire, n'est pas acceptée en dehors de ce pays d'Afrique australe, ce qui la rend inutile pour les entreprises qui ont besoin d'importer des marchandises. Pour Tonga et Madamombe, vendeurs des pièces détachées, le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa doit opter pour l'utilisation du dollar américain.
Pour ceux qui n'importent pas, il n'est pas aussi difficile de facturer en billets de banque, comme c'est le cas pour nous qui importons. Si vous ne calculez pas correctement, vous ne pourrez pas vous réapprovisionner. Nous sommes vraiment dans des moments difficiles. Nous utilisons donc les taux du marché parallèle, car nous allons y chercher des devises pour importer nos actions.
Le Zimbabwe a abandonné son dollar il y a plus de 10 ans lorsque l'hyperinflation l'a rendu inutile. Maintenant, les notes obligataires introduites il y a 2 ans se déprécient également. Le rand sud-africain et la livre sterling sont acceptables dans de nombreux commerces et services du pays, mais très difficiles à trouver. Même certains ministères et sociétés publiques telles que la Société nationale des chemins de fer ont commencé à exiger des paiements en dollars américains pour se protéger de la dépréciation des notes obligataires. Autre produit rare du Zimbabwe, le carburant. Le gouvernement continue de contrôler son prix, mais sa tâche a été rendue difficile par le fait que certaines entreprises ont commencé à exiger des paiements en dollars américains. Edinson Mazambani, responsable de l'autorité zimbabwéenne de régulation de l'énergie, affirme que seuls sont autorisés à vendre en dollars les compagnies qui importent directement du carburant parce que la Banque des réserves du Zimbabwe verse des devises pour la plupart des autres importateurs de carburant du pays.
Nous avons besoin de documents. Si vous vous êtes procuré auprès de la banque de réserve et que vous ne parvenez pas à nous les fournir, nous prendrons les mesures nécessaires. Vous auriez enfreint à la loi. Nous allons donc prendre des mesures conformément aux lois en vigueur dans le secteur pétrolier.
Le gouvernement assure qu'il retire les licences aux stations-service négociées en dollars américains alors qu'elles étaient supposées utiliser la monnaie locale. Mais jusqu'à présent, cette politique n'a pas mis fin à la vente du carburant en dollars américains, lui rendu le carburant plus disponible.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, le Top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur votre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 5h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction et Dressa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.